France Musique.
Merci Philippe Cassard. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une toute nouvelle émission. Et bonnes vacances.
1, 2, 3. Pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui part bientôt en vacances. Dernière émission de notre année de patchwork. Et pour ce faire, prenons un virage à 180 degrés pour une émission qui nous parlera de la part sonore des manifestations des esprits, fantômes et spectres. En suivant archives, entretiens et musique anthologique, nous parcourrons les méandres de la hantise et autres possessions avec notre invité et néanmoins coproducteur de cette émission, Philippe Baudouin. Grand spécialiste de la question, qui nous a apporté sur un plateau la fameuse histoire de l'esprit frappeur du village de la machine. Mais tout de suite, notre dernière sonothèque de l'année, notre dernier son décharné pour entrer de plein pied dans les sons hantés. Le cri du patchwork, virage numéro 2.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Les portes. Un son de notre quotidien qui se révèle souvent comme un miroir de nos intentions, nos humeurs, nos caractères. Lorsqu'on claque une porte, ou qu'on l'entrouvre, ou lorsqu'on fait le maximum pour qu'elle ne fasse pas de bruit. La porte traduit notre état émotionnel. Et surtout, chaque porte a une identité, un chant propre, une texture propre. Prenons les grincements de porte. C'est un élément sonore qui installe tout de suite une ambiance. Qu'est-ce qui a fait que nous l'associons nécessairement à la peur, l'angoisse ? Peter Cusack a collecté quantité de sons issus d'endroits dangereux, comme il les appelle. Comme ce son de fenêtre capté à Tchernobyl, Squeaky Hinge Opachishi Village, une identité sonore de la désolation, de l'abandon. Prenons maintenant le grincement des gonds d'une porte comme une matière à musique électroacoustique. Un court extrait de « Porte qui grince » de Jean-Pierre Toulier est donné dans « Le solfège de l'objet sonore » de Pierre Schaeffer, qui s'amuse à commenter l'importance du bruit de la porte.
On pouvait donc tenter de faire de la musique des deux côtés de la cloison, mais on pouvait en faire aussi au seuil d'une porte que jamais les bruits, semble-t-il, n'avaient pu passer pour accéder au domaine musical. Ce n'est pas là l'entrée des artistes, tout au plus celle des fournisseurs. Ainsi le bruit frappe à la porte de la musique, la fait grincer, gémir. d'où l'ambition de domestiquer ces bruits, de leur imposer nos échelles, d'où l'idée apparemment logique, qui se révélera stupide, de faire monter la gamme à n'importe qui, à n'importe quoi. Ainsi ce chien...
Ken Ikeda trouve dans le grincement de fenêtres une matière propice à inventer sa matière sonore personnelle. On ne reconnaît plus vraiment la porte ou la fenêtre, mais on sent une matière grinçante à l'origine de son écriture. A contrario, on peut imiter le son d'une porte qui chante sans utiliser de porte, grâce par exemple à une guitare préparée. Tetsuji Akiyama, improvisateur japonais, utilise la guitare pour qu'on ne la reconnaisse pas. Au fur et à mesure de ce morceau, Convulsion, on distingue finalement le timbre d'une guitare jouée à l'archet. Mais ça aurait très bien pu être une grille de portail grinçante. Autre cas de figure, la porte est bien là mais n'est pas toujours perçue. Elle n'est qu'une matière avant de redevenir une porte à nos oreilles. Progressivement, comme dans Variations on a Door de Scott Smallwood. Quand on parle de variation sur une porte, on ne peut pas ne pas penser à l'un des premiers chefs-d'œuvre de Pierre Henry. Variation pour une porte et un soupir, où le compositeur finit par humaniser la porte. Il lui donne l'occasion de soupirer, de bâiller, de respirer, de devenir vivante. Ah! Dans tous ces exemples, la porte n'a plus sa fonction première, ouvrir ou fermer une pièce. Elle est matière sonore. La porte peut devenir un outil dramaturgique de premier plan, pour signifier un changement d'état dans un morceau, ou pour simplement ouvrir ou fermer une œuvre. Jusqu'à devenir une marque, un signe particulier qui sera immédiatement associé à la pièce à laquelle le son de porte est associé. Si je vous dis... Vous me dites... Eh oui, The Cure, Close to Me, 1985. Et si je vous dis... Vous me dites... Facile. Thriller de Michael Jackson, bien entendu. Voire introuvable. Vous me dites... Ça ne sert à rien, c'est impossible. P-Shack Session de Soul Center de l'artiste Thomas Brickman en 1999. D'ailleurs, cette œuvre se termine avec un petit bruit de portail se refermant, comme dans Thriller, nous invitant sans doute à sortir du cauchemar. Le bruit de la porte permet également de créer une cloison avec ce qui est en train de se jouer. Comme dans cette utilisation de la porte comme paroi acoustique dans There's More to Life Than This de Björk. Plongé dans une soirée où est diffusée de la house music basique, Björk dit à son amie qu'elles ont mieux à faire que de rester dans cette partie miteuse, jusqu'à s'enfermer dans une salle à l'écart.
To this island, I could bring my little ghetto blaster. There's more to life than this. But then we'd have to rush back to the town's best baker to get the first bread of the morning. There's more to life than this.
Le son de la porte est un passage. D'un état à un autre, d'un monde à un autre. En particulier pour un artiste comme Michel Musso, aux états et mondes imprévisibles. Toujours entre deux portes, nom qu'il donne à ses compositions en porte à porte. That's the
Somatise par manque de vocabulaire.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein ? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Esprit, es-tu là ? Si t'es là, t'as...
Fin 1973, à La Machine, village minier situé près de Nevers, débute une affaire de hantise autour d'un enfant de 11 ans qui communique quotidiennement avec un esprit frappeur. Cette fois, l'affaire donne lieu à une enquête de la gendarmerie menée par le maréchal des logis chef Guy Hibert.
Je commandais la gendarmerie de La Machine en 1973. Et lorsque ces faits ont été portés à ma connaissance, il y avait certainement déjà quelques jours que cela durait. En fait, pour résumer, La Machine, petite ville minière de diverses cités, avec des rues parallèles, cités minières comme dans le Nord, le Pas-de-Calais. Et les gens sont très proches les uns des autres. C'est des grands bâtiments qui sont à 2, 3, 4 logements. Les cloisons sont peu épaisses et il ne faut pas faire beaucoup de bruit chez le voisin pour les entendre chez l'autre.
Esprit, c'est le chef qui te parle. Tu m'entends ? Tape un coup. Je t'ai pas entendu. Retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal ? Tape deux coups.
Philippe Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur chargé de réalisation à France Culture, mais surtout un grand spécialiste des musiques occultes, des phénomènes occultes autour de ce qu'on appelle finalement l'anthologie. D'abord, pourquoi La Machine ? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette machine qu'on entend décrite depuis tout à l'heure par le chef de gendarmerie, Bernard Guilbert ?
Il y a peut-être avant tout le nom de ce village, de cette ville, qui se trouve au fin fond de la Nièvre, dans le département de la Nièvre, qui déjà met en abîme tout un dispositif assez incroyable déployé pour capter l'invisible, puisqu'il est question de cela. Bernard Guilbert, en 1973, il a eu la bonne idée, ce gendarme, d'utiliser un appareil d'enregistrement, ce qui est extrêmement rare, et d'ailleurs c'est, à ma connaissance, la seule occasion qui a eu lieu d'enregistrer au moyen du son, au moyen d'un magnétophone, des phénomènes de déplacement d'objets, des phénomènes de coups frappés surtout, en fait, parce que c'est ça.
Les esprits sont toujours frappeurs, ils frappent toujours, ou bien dans les témoignages qu'on a des différents esprits, est-ce qu'ils font d'autres bruits dans ces maisons qu'on appelle hantées ?
On peut entendre des voix aussi surgir de nulle part. Là, ce n'est pas le cas dans l'affaire de La Machine. Il est exclusivement question de coups frappés, de raps, comme disent les Américains dans la seconde moitié du 19e. Il faut rappeler peut-être une chose, c'est que le phénomène dont il est question dans cette petite maison de La Machine en 1973 reproduit quasiment à l'identique ce qu'on considère encore aujourd'hui comme l'acte de naissance du spiritisme, du modern spiritualism, ce que les Américains...
Plein milieu du 19e, c'est ça.
Au 19e siècle, les Sir Fox, dans l'État de New York, vivent exactement la même chose.
Je me suis rendu sur place et j'ai entendu moi-même les coups résonner dans la cloison qui était une cloison de briques plâtrières, 7 cm environ d'épaisseur, séparant la chambre du fils de celle des parents. On a vérifié, il n'y avait aucun branchement, aucun magnétophone, rien d'anormal, et donc les coups étaient spontanés dans la cloison. Et le gamin à l'époque se prenait au jeu, aidé en cela par la maman en particulier, par le père. La mère indiquait au garçon, demande-lui ceci ou demande-lui cela, et c'était répondu par des coups.
Bah, tu penses vraiment à moi, et dis donc, où que t'habites, dans la machine à deux sièges ou un verre? Si c'est un verre, t'as pas un coup. Mais comment que t'es fait pour que t'entendes de là-bas? Est-ce que tu as quelque chose de branché ici? Si c'est oui, tape un coup.
Ben, tu m'entends bien alors.
Ben alors tu m'entends bien. Tape deux coups.
Le gosse avait même gratté sur la cloison. Le papier, autant je me souviens, était un petit peu arraché à l'endroit où ça se produisait. Moi-même, en collant mon oreille sur le mur, je n'ai pas pu distinguer de zone précise. C'était plutôt une zone diffuse, autour d'un point central, une zone diffuse de 20 à 30 cm. Et là, les coups se produisaient. Mais ce n'était pas sur un point très restreint.
Est-ce que tu aimes les gendarmes? Si tu les aimes, tape deux coups. Si tu les aimes pas, tape trois coups.
Il faisait rythmer une chanson, je me souviens, de Marie Laforêt, la chanson « Viens », qui était rythmée par des coups.
Assez.
Philippe Baudouin, on vient d'écouter une chanson reprise par l'Esprit Frappeur en 73, donc lors de l'enregistrement auquel a procédé le chef Gilbert à la machine. Mais il y a une véritable musique aujourd'hui, un courant musical qui s'inspire justement de toutes ces musiques non pas possédées ou occultes, mais ce rapport à l'ancien, au passé, que l'on fait ressurgir aujourd'hui de différentes manières. On appelle ça le mouvement anthologique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus et nous en donner peut-être les caractéristiques?
Alors, mouvement est certainement plus juste que courant pour ce qui est de la anthologie, H-A-N-T-O-L-O-J-E, G-I-E, pour être précis. Jacques Derrida parle de la anthologie par opposition à l'ontologie, la science de l'être. La ontologie, ça serait une science des fantômes, une science des spectres, une science de l'invisible finalement. Et il est question de ces rapports entre présence et absence, entre disparition et apparition. C'est finalement la question d'une perte radicale, du coup de la mémoire, du passé, c'est tout cela. Et on va s'apercevoir qu'au début des années 2000, il y a eu un mouvement qui est né, surtout à travers les travaux de critiques, la critique musicale en fait anglo-saxonne principalement, et puis d'une certaine communauté en fait d'artistes, de performeurs, de musiciens. Il y a même des labels, je pense à Touch, à Ghostbox, à Trunk également.
Qui sont vraiment destinés à faire la promotion des mouvements anthologiques.
Voilà, en tout cas de tenter de faire émerger des musiques qu'on pourrait rapprocher à cet esprit-là, véritablement, parce qu'il est question d'un esprit. Mais je pense plus encore qu'il est question d'un symptôme. C'est avant tout une histoire de traces. Parce que ce qu'il y a d'assez fascinant, je trouve, dans ce mouvement-là, c'est qu'il y a une importance donnée à la trace, au support matériel, à ce qui compose tout phénomène sonore musical, enregistré, toute œuvre musicale, mais qui finalement, habituellement, est complètement écarté. C'est le grain, c'est le parasite, c'est le grésillement, c'est tout le travail de studio. C'est une, en fait, ce qu'il y a cas dans l'anthologie, c'est une revenance. Il est question de revenants, il est question de spectres, mais ces spectres, ce sont peut-être et avant tout les spectres du studio.
Comme ici, en fait, on a plein de petits parasites, donc on va peut-être gommer quand il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas d'où.
Puis il y a énormément de fantômes qui passent dans les micros.
Je me rappelle un enregistrement qu'on avait fait avec une perceuse, et ben, c'était peut-être notre revenant du moment. C'était une présence.
C'était une présence qui se manifestait dans une profonde absence. Et c'est ça qui fait la particularité de la musique anthologique.
Comme
c'est...
dans le groupe Exile, qu'on va écouter, qui est un groupe, on peut dire, de hip-hop.
C'est un producteur, un producteur américain, musique électronique, musique hip-hop, qui a la particularité d'avoir utilisé énormément d'extraits d'émissions de radio, stations de radio américaines, surtout de Los Angeles, là où il vit. Et puis, il a trituré tout ça, il s'est accaparé, il a assimilé tout
en
ça.
En gardant le grain de la radio.
En gardant le grain, les voix, les jingles, tout ce qu'on appelle l'habillage, ce qu'on appelle les virgules, les génériques, tout ce qui compose finalement l'identité d'une radio pour en composer quelque chose d'extrêmement musical à partir de coupures, de jeux avec ses parasites, ses voix tronquées. Quelque chose d'assez fascinant parce qu'il a réussi à s'approprier tout ce qui compose la culture radiophonique.
Opérateur radio du producteur Exile, une musique qui pourrait faire partie du mouvement anthologique selon ses stigmates, ses symptômes, comme disait Philippe Baudouin. Là, on entend bien le grain de la radio, le sampling avec le rajout du présent par-dessus du passé. On a plusieurs fois, justement, dans les musiques anthologiques, ce rapport à l'emprunt, au sampling. Et on a en particulier dans Radio Mental et Pierre Lapolice, le sampling carrément de films. Pour créer du sens avec des choses qui n'en ont pas trop finalement entre elles. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent dans le cinéma, par exemple, de voir des manifestations anthologiques aujourd'hui ? Est-ce que l'image fait partie de ce véhicule de l'anthologie ?
Oui, parce qu'il est question de détournement. Et puis au départ, le rapport que les spectateurs de cinéma entretiennent avec la toile, finalement, c'est un rapport qui est profondément fantomatique.
Mais encore.
Les premiers témoignages qu'on a effectivement de spectateurs de cinéma ont plutôt à voir avec l'effroi, en fait. Sans pour autant parler d'effroyable, mais il est question d'une tension comme ça, parce que finalement, ces êtres qui se déplacent, qui sont mis en mouvement, c'est le principe même du cinéma, ont une présence. Une présence qui est assez troublante. C'est un trouble, en fait, finalement. Et c'est la même chose pour la radio. C'est Deleuze qui parlait de machines à fantômes. Le cinéma, la radio, le télégraphe, le phonographe, ces machines parlantes, ces machines qui font surgir de manière indéfinie les sons, les voix, les images, sont des machines à fantômes. Pour ce qui est de cette mouvance anthologique qui présentait ses symptômes de traces, comme ça surgissant de manière assez incroyable, et puis évoquant le passé, évoquant la mémoire, une mémoire collective aussi, c'est ça qui est assez sensible et qui peut aussi toucher celui qui écoute ces musiques-là. Il y a, avec ces spectres de l'anthologie, un souhait, peut-être, pour nous autres auditeurs, de nous désarticuler avec le temps, avec l'espace, avec le temps, pour nous projeter comme ça dans un univers qui est complètement inconnu.
Comme je viens de vous le dire, je vais vous parler de l'estomac.
Ce fut terrible, et ils ont dévoré Georges juste sous nos yeux.
Mais qu'est-ce qu'il prend, tu es fou ?
Monsieur Anderson.
Est-ce que tu es conscient, Ernie ? Tu sais que les cannibales sont toujours gentils avec leurs victimes, même avant de les manger.
Monsieur Anderson. Le message m'a été confirmé, n'y a aucun doute.
Bon sang, qu'est-ce qu'on fait ici?
Que se passe-t-il, Joanna? Dis-moi.
Qu'est-il arrivé à Suzanne et à Georges?
Radio Mental et Pierre la Police. Bon sang, qu'est-ce qu'on fait ici? Exclusivement constitué de samples de cinéma, on entend vraiment qu'on est dans le film, mais avec quand même une ambiance musicale créée par le synthétiseur, l'ordinateur, qui nous crée une petite angoisse, une petite peur. Il y a de ça aussi dans la musique anthologique, c'est installer le public dans quelque chose qui rappelle des émotions, des sensations qu'il a pu connaître ou qu'il essaie de deviner.
Oui, c'est une étrange association d'une certaine forme de trouble, de malaise, avec cette absurdité de ces répliques. Mmh. C'est ni plus ni moins le cinéma bis, en fait, qui est mis à l'honneur dans ce projet de Pierre la Police avec ce duo de DJ Radio Mental, donc Jean-Yves Leloup et Éric Pageot. Il y a eu un souhait, alors je crois que il était question d'une exposition TraumaVision. Hein. TraumaVision, c'était une exposition qui avait eu lieu à Paris en 2004. Et c'était ni plus ni moins que la bande-son en fait de cette exposition. Donc il y avait ces clins d'œil en fait au cinéma bis, à l'absurdité des montages, des images, mais aussi et surtout des voix. Ce que je trouve d'assez beau et d'assez réussi finalement, c'est cette association et ce décalage entre cet humour, de ce doublage, parce que c'est très souvent des films doublés, des films de série Z, des films de genre, films fantastiques, films d'horreur, etc., doublés, avec un doublage plus ou moins réussi d'ailleurs, mais quand bien même on réussit avec ce travail à donner une certaine forme de profondeur, de retour comme ça dans un univers qu'on n'a jamais véritablement connu, comme un déjà-vu qui finalement s'ancrerait sur un flou assez incroyable.
Et maintenant, retour à la machine, petit village près de Nevers, à la découverte de l'enregistrement de l'esprit frappeur par le gendarme Bernard Gilbert.
Bravo.
Quand il se réveillait, on était puisqu'il couchait là, c'est quel pile, qui nous a côté. Quand on voyait qu'il bougeait dans le lit, ça y est. Puis là, vous savez, ça faisait. Alors, des fois, je faisais. Mais ça tapait, ça l'appelait, alors des fois je disais, demande ce qu'il fait. Parce que, on disait lui ou je sais pas, demande ce qu'il veut. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Alors ça tapait, alors il causait, ou alors il chantait. Ah mais faut voir, hein, la musique, hein. Alors le petit rien comme ça.
Ah oui.
Il faisait, arrêtez.
Et c'est simplement les gestes.
Ouais, ça,
les gestes, c'est tout.
Alors c'était la marche, c'était la. Alors le petit, ça l'a pris, il chante. Ça faisait pareil dans le mur. Ça battait la mesure.
La mère intervenait souvent.
Bernard Gilbert.
Pour aider le gamin qui était un petit peu perdu, parce qu'en fait, on lui faisait répéter la même chose tous les jours, pour que les gens qui venaient puissent entendre. Alors la mère le guidait, demande-lui la chanson de Marie Laforêt, où la mère disait 1, 2, 3, le gosse répétait, et à chaque fois, ben, dans le mur, il y avait 1, 2, 3 ou 4 coups, 5 coups qui se répétaient.
9, 10.
Moi-même, j'ai donc été tenté de poser la question, esprit, es-tu là? Si tu es là, tape un coup, tape deux coups, ça a tapé, et on a pris la conversation. J'ai posé la question de nous donner le tiercé du lendemain. Et ça m'a donné, donc, par nombre de coups, 3 chevaux. J'en ai parlé à mes amis, les gendarmes, on a tous joué ces 3 chevaux. Et heureusement qu'ils ne sont pas arrivés, parce que le PMU aurait peut-être dit trouver ça anormal, mais il y en avait quand même 2 sur 3.
Esprit, dimanche dernier, tu m'as donné le tiercé. Est-ce que tu veux bien me le redonner? J'avais mal entendu. Le premier cheval. Le deuxième cheval. Le troisième cheval.
Une autre chose, au sujet du tiercé, j'avais demandé combien il y avait de partants au tiercé du lendemain. C'était un tiercé de haies. Je crois qu'il y avait, autant je me souvienne, 14 partants et ça a tapé 13. J'ai fait répéter, ça a retapé 13 coups. Ce n'est que le lendemain, vers 11h, que Maurice Bernardet sur RTL annonçait qu'il y avait un non partant. Alors au lieu de 14, il n'y en avait bien que 13. Vous penserez ce que vous voudrez, mais enfin c'est comme ça.
Est-ce que ces phénomènes sont impressionnants par moments?
Oui, franchement oui. Parce que moi qui n'y croyais pas, lorsque j'ai entendu ces bruits, et en plus les questions précises et les réponses exactes, ça fait drôle. Et de plus, lorsque ça tapait, en approchant la main contre la cloison, alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté, hein, c'est pas possible, il n'y avait strictement personne. Et les coups qui étaient tapés contre le mur, en approchant la main, on sentait de très nettes vibrations dans le mur, plus ou moins fortes, suivant le coup tapé contre le mur. Et franchement, ça impressionne. On a pensé à un tas de trucages, micro, enfin, tout ce qui était possible, imaginable, tel qui, walkie, et tout ce qui s'ensuit. Mais on a bien dû se rendre compte que, se rendre à l'évidence, il n'y avait rien. Enfin, ce n'est pas explicable.
Voilà, ça ne s'expliquait pas par un trucage.
Non.
Pour dire qu'il y avait quelque chose, ça, vous en êtes certain.
Ben, encore un tout petit doute, mais tout petit. Hein.
Quatre ans plus tard, l'équipe d'Au-delà du naturel s'est rendue sur les lieux mêmes pour retrouver Dominique et l'esprit frappeur de la machine.
L'homme maintenant !
Bon, c'est ce qui a fait penser probablement à certaines médiums ou parapsychologues qu'au fond c'était vous qui les produisiez en quelque sorte.
Oui.
Cette idée-là, ça vous fait quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouf ! Je sais pas moi, mais ceux qui disaient ça, c'était pas intelligent.
Phénomène inexpliqué, c'est sûr. Hein. Bon, pour moi, c'est l'esprit frappeur. Ça passait dans son esprit et c'était, comment dirais-je, renvoyé dans le mur en onde de choc, si vous préférez. Mais je ne peux pas l'expliquer, d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu veux maintenant? Si tu veux quelque chose, tape 3 coups. Tu veux te mettre en colère? Si oui, tape 3 coups.
Vas-y.
Vas-y maintenant. Attends, je vais t'accompagner là. Bah vas-y tout seul maintenant. Pas des comme ça, des plus forts comme je t'ai fait.
T'es un imbécile,
t'as pas de force de m'amuser. T'es vraiment rigolo ça.
T'as
pas mon coup. Énerve-toi un peu.
Il y a cette volonté chez cet enfant de donner corps quelque part à cet esprit, de s'en faire quelque chose de familier. Il discute avec lui, il pose des questions, il l'interroge, il le taquine, il l'insulte même
oui,
aussi.
Il se met en colère. L'enfant demande à l'esprit « Énerve-toi, montre-moi du caractère finalement
oui. ».
Donc l'esprit frappeur, par les coups, peut exprimer des émotions. Oui. Philippe Baudouin.
Il peut exprimer des émotions. Après toute la difficulté d'en connaître la nature, l'essence véritablement, parce qu'on ne sait pas s'il est question d'une personnalité défunte, là il y a énormément de théories qu'on peut avancer, la théorie spirit, qui voudrait notamment que ça soit, par exemple, l'âme d'un défunt qui n'est pas encore trouvé le repos et qui se trouve comme prisonnière, en fait, de cette maison. Et puis, il y a la théorie parapsychologique aussi, qui voudrait que cet enfant, inconsciemment, c'est un adolescent, il faut bien insister là-dessus, très souvent, assez régulièrement, depuis qu'il est question de maison hantée, dans l'histoire, les phénomènes de maison hantée, les cas de maison hantée ne remontent pas du tout au XIXe siècle. Il y a des récits de maison hantée qui existent depuis l'Antiquité, qui sont rapportés depuis l'Antiquité. Assez souvent, on retrouve la figure de l'adolescent, parce que l'adolescent est dans une période extrêmement complexe de sa vie, avec toute l'évolution corporelle, psychique, mentale, et avec une énergie assez incroyable qu'il arrive plus ou moins à domestiquer, plus ou moins à maîtriser. Et ces phénomènes de poltergeist, d'esprit frappeur, pour un certain nombre de parapsychologues encore, peut être envisagé comme ce qu'on appelle la psychokinèse, donc la prétendue action de l'esprit sur la matière. Mmh. Par exemple, la mise en mouvement d'objets, le fait d'exploser, de faire exploser par la force de l'inconscient des fenêtres, des verres, de la vaisselle, de déplacer des meubles, etc.
Est-ce que la porte qui grince est cet objet étrange qui se met en mouvement? On a des témoignages là-dessus sur la porte qui bouge toute seule, par exemple.
Oui, ça fait partie des mouvements qui peuvent paraître inquiétants aux habitants d'une maison. Ça peut être les plombs qui sautent. Ça arrive régulièrement parce qu'il y a aussi l'électricité derrière tout ça. C'est-à-dire que l'électricité est un phénomène physique, un phénomène naturel, et qui aussi, depuis que ce qu'on a appelé les sciences psychiques, puis la parapsychologie, on travaillait dessus, présente toujours ce caractère de sauvage, en fait, presque animal. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a parlé de magnétisme animal au XVIIIe siècle. Il y aurait un fluide invisible comme ça que nous partagerions tous et qui peut-être influerait d'une certaine manière sur notre environnement et y compris sur le territoire de l'intime, sur notre maison par exemple.
I had this gift from childhood, but it wasn't until recently that composers began to communicate. But before then, I would see spirits of people we consider dead, you know, who are very much alive.
Madame Brand dit que depuis très longtemps, elle a l'habitude, naturellement, de voir ce que l'on appelle des gens morts, mais que ses rapports avec les compositeurs sont tout récents et datent de 1964.
Philippe Baudouin, on a des cas de possession de musiciens, ou même de non-musiciens, par des compositeurs. Oui. Il y en a un assez célèbre, c'est Rosemary Brown, qui était spirit, c'est ça?
C'est ça. Il y a toute une tradition de médiums musiciens qui remonte peut-être au début du XXe siècle. Et Rosemary Brown, cette Britannique, appartient véritablement à cet héritage-là, involontairement. Mmh. Rosemary Brown, en fait, voit le jour dans une famille de fervents spirites en Angleterre. Et puis, à l'âge de 7 ans, elle a cet événement incroyable qui se produit. Elle voit un vieil homme surgir comme ça, dans le fantôme d'un vieil homme dans sa chambre. Et il est habillé d'une manière très décalée, en fait. Et elle s'aperçoit tout de suite que c'est quelqu'un qui n'appartient pas à son temps, qui n'appartient pas à son époque. Et c'est quelque chose qui va véritablement la hanter. C'est quelqu'un qui est dans un milieu assez modeste. Elle devient postière à l'âge de 15 ans. Et puis, un jour, elle poursuit sa scolarité. Elle découvre dans un livre une photo qui lui fait tout de suite penser au visage qu'elle avait oublié de cet homme-là. Et cet homme, c'est Franz Liszt.
Franz Liszt qui s'est présenté à Rosemary Brown.
Et qui lui avait dit, lorsqu'elle avait 7 ans, un jour, tu deviendras une grande musicienne. Tu deviendras une grande interprète. Et bon, elle vit ça de manière assez particulière, mais elle s'intéresse un tout petit peu à la musique. On sait qu'elle va prendre quelques cours de piano avec un professeur, mais sans véritablement de grandes convictions. Et en 1964, elle fait une chute. C'est un accident qui l'empêche de travailler, repos forcé. Et elle va se retrouver à nouveau face à son piano. Et soudainement, ses doigts vont se mettre à jouer une mélodie qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Une sorte de fluide comme ça, une inspiration dont elle ne connaît pas véritablement, en tout cas à cette époque-là, à l'origine. Et puis elle va entendre des voix qui vont venir lui dicter des partitions. Et ces voix vont se réclamer de Schumann, de Beethoven, de Liszt. Elle va produire près de 800 partitions. Donc,
écrite intégralement,
c'est une forme d'écriture automatique appliquée à la musique.
Et c'est ça comme son jeu automatique sur le piano,
en fait. Sachant qu'elle n'a aucune notion, ou très peu de notion de solfège, et la vitesse à laquelle se produisent les phénomènes étant total décalage avec une possible compréhension de ce qui se produit véritablement pour elle. Il y a ça, et puis il y a aussi l'exécution même des œuvres au piano, tant et si bien qu'elle va attirer véritablement le regard de Bado, de Curieux, mais aussi de musicologues, de grands musiciens. Il y a par exemple le directeur à l'époque du London College of Music, Lloyd Webber, qui dira d'elle que c'est impossible qu'il s'agisse de pastiche. Effectivement, un étudiant en musique pourrait imiter le style en fait d'un compositeur, par exemple Schumann. Mais là, pour le cas de Rosemary Brown, la musique semble véritablement inspirée directement de l'esprit.
Dictée par le compositeur.
Dictée à l'oreille de Rosemary Brown par le compositeur.
Alors on va écouter Longing d'après Schumann, ou bien de Schumann, mais
inspiré,
à travers le médium Rosemary Brown. Attribué à Robert Schumann dans un disque fabuleux qui s'appelle « Musique de Liszt, Chopin, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms, Grieg, transmise à Rosemary Brown ». C'est-à-dire des inédits quand même de tous ces grands compositeurs qui auraient été transmis à Rosemary Brown à travers ses mains. Alors, sans vouloir insulter la mémoire de Rosemary Brown, c'est un mauvais Schumann quand même là qu'on a...
Elle joue comme une casserole, on peut le dire.
Elle joue comme une casserole et en plus, c'est pas le meilleur Schumann qu'on ait pu connaître.
Certainement pas.
Voilà. On en a passé pas mal sur France Musique du Schumann. Mais est-ce qu'on a eu d'autres cas que Rosemary Brown? Parce que c'est la seule qui a été enregistrée en gros.
C'est la seule qui a été enregistrée. Il y a d'autres médiums musiciens qui ont comme ça effectivement marqué l'histoire de ce que certains appellent la paramusicologie.
D'accord.
Donc c'est une discipline qui existe, il y a des chercheurs en musicologie qui travaillent d'ailleurs là-dessus, sur ces rapports entre écriture automatique et écriture musicale. Mais le cas de Rosemary Brown est véritablement singulier parce que des experts, des spécialistes de chaque compositeur se sont penchés là-dessus. Il y a des psychologues aussi, il y a notamment Robert Kastenbaum qui a analysé les compositions en fait de Brown et qui lui a proposé une autre approche expliquant dans son analyse que à l'état latent, peut-être Rosemary Brown possédait des personnalités secondaires qui, à l'occasion de ce qui pouvait s'apparenter à des transes, pouvaient s'exprimer et être libérées. Peut-être quelque chose de l'ordre du refoulé qui était satisfait, soulagé d'une certaine manière à travers ses compositions musicales.
Dans un monde d'amour et d'harmonie. La mort
Alors c'était la voix d'André Malraux, enregistrée en 1986, c'est-à-dire 10 ans après sa mort, où il disait tout simplement « Apprenez tout ce que vous pouvez sur. Nous ne sommes pas morts, parce que vous êtes des avions. Nous vivons dans un monde de beaucoup d'harmonie, un monde rempli de musique, de couleurs et de poésie. C'est vrai ?» Alors là, on est face typiquement à une sorte de poésie sonore post-mortem, si on peut l'appeler comme ça, c'est peut-être un peu cavalier de ma part, mais c'est une vraie question, capter la voix des morts. Mais depuis l'histoire de l'enregistrement, enfin depuis l'enregistrement, c'est-à-dire le phonographe avec Thomas Edison, c'est bien ça Philippe Baudouin ?
Oui, parce que Thomas Edison, l'inventeur américain à qui l'on doit notamment le phonographe dans les années 1877-1878, s'est non seulement intéressé à cette machine parlante-là, mais à la fin de sa vie, en 1920 jusqu'à 1931, l'année où il disparaît, il a eu cette idée, cette envie de concevoir une machine pour enregistrer la voix des morts. On trouve ce texte dans un chapitre intitulé « Le roi de l'au-delà » que j'ai réédité récemment, et il présente son projet de nécrophone. J'ai donné ce terme de nécrophone parce que sa machine n'avait pas eu le temps d'être baptisée par Edison, c'est un projet qui restait inachevé et qui a été repris bien plus tard, à partir de la fin des années 50, début des années 60, par un certain Constantin Raudive, qui était psychologue letton, et qui était chargé de cours à l'université, qui a rencontré différentes personnes qui ont tenté d'œuvrer dans ce domaine-là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transcommunication instrumentale. C'est une pratique qui s'inscrit vraiment dans la tradition du spiritisme, mais où on convoque les appareils d'enregistrement sonore et vidéo pour tenter d'obtenir l'image de l'invisible, le son, la musique de l'invisible. Et ces phénomènes de voix électronique, ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes de voix électronique, ont été captés par Raudive. Il a consacré toute sa vie à l'enregistrement de ces voix des morts qu'il a collectées, amassées.
Il y en a des tonnes, je sais plus, 70 000, c'est ça ?
72 000 enregistrements, réalisés par Constantin Raudive. Ils sont maintenant conservés à Londres, à la National Library, qui font véritablement partie du patrimoine britannique. Et Raudive a inspiré William Burroughs. Donc on retrouve toute cette poésie de la diction post-mortem, de ces voix invisibles, de ces voix occultes. Et William Burroughs s'en est véritablement inspiré pour le cut-up.
Nach dem Sintermauriner von Seance entfernt hat, hört man Stimmen gespräch. Erste Stimme. Ja, wie ne Grippe ihr, ist lettisch und heißt. Ja, sie wollte gehen. Aufpassen. Die zweite erklärt, Sova will, es ist schwedisch und heißt, schlafen will, aufpassen.
Hier Konstantin Raubive. Wir hören jetzt einige Stimmenbeispiele, eine kleine Auswahl aus 60.000 Stimmen. Hier vorgeführten Beispiele gehören meist zur A-Gruppe. Bitte beachten Sie die Vorbedingungen für richtiges Abhören und die Kommentare zu den Stimmen auf dieser Platte. Jede Stimme wird viermal wiederholt. Achtung, jetzt hören Sie die erste Klavierstimme, die am 10. Juli 65 am Gipfelsee aufgenommen wurde. Ich sage lediglich, Jungs, ja. Das heißt, ihr müsst doch mit mir sein. Eine Stimme entgegnet, ich spreche da Bums. Deutsch, so ist es richtig. Bitte aufpassen.
Ja, gut. cadavre magnétique de DJ Spooky aka Paul D. Miller, grand pourfendeur d'archives, de petits bouts justement de radio, faisant une forme de musique anthologique et qui a fait un disque dédié justement à Constantine Raudivé. On entendait une première version de ses voix occultes enregistrées par Raudivé et ensuite l'interprétation de DJ Spooky, c'est-à-dire qu'on a une mise en abîme anthologique des archives et des voix des morts enregistrées. Mais il est temps pour nous de revenir à la machine pour suivre notre histoire autour de cet enfant et l'esprit frappeur.
Bon, puisque tu m'entends, si je suis debout, tape un coup. Si je suis baissé, tape deux coups.
Je t'attends, moi. Hein?
Feignant.
Feignant, bouge.
Dis, réponds.
Réponds, je tape plus fort, au moins.
Plus fort encore.
Plus fort encore. Comme t'as fait avant-hier.
Le père de Dominique travaillait donc à la mine, le gamin était à l'école.
Bernard Guilbert.
Ça se produisait le soir à compter de 19h-20h. Et puis, la mère disait au gamin, allez, va dans ton lit. Et puis, on commençait la sérénade tous les jours, quoi. Tous les jours, il interviewait l'esprit frappeur et l'esprit répondait, hein. Ça a duré plusieurs jours, je dirais une quinzaine de jours, quoi. Quand le père y descendait la mine dans le bas, tout le monde, dans les micros qu'il y a en bas, l'appelait le fantôme, hein, etc. quoi. Mais en fait, bon, c'est un esprit frappeur. Hein.
Quelle heure est-il ce soir ?
Quelle heure est-il en ce moment ?
Autant... Quelle heure est-il en ce moment ? Tape autant de coups d'air.
Ça s'est dit dans toute la cité. Ça a d'abord commencé par les voisins qui venaient entendre le fantôme, si vous voulez, ou l'esprit frappeur. Les gens n'y croyaient pas. Il y en a même qui se sont presque trouvés mal en les entendant. C'est vrai. Et moi, j'ai continué à assister, voir jusqu'à la limite, où c'est que ça troublait pas l'ordre public. Mais après, ça s'est amené, comment dirais-je, des vautours. Ceux qui viennent pour... des questions d'argent en disant « écoutez, je vous remets ceci, une assiette ou un truc comme ça, vous me donnez de l'argent et ça va s'arrêter. »
Tu m'énerves.
Vous l'attendiez le soir quand vous auriez aimé que ça s'arrête?
Oh, moi j'aurais préféré que ça s'arrête. Parce que ça commençait à venir agaçant, quoi.
Oui, ça l'a très marqué et je crois autant me souvenir et d'après ce que je puis savoir actuellement, il ne veut plus entendre parler du tout de cette affaire, ne plus avoir de contact avec ça, mais ça l'a marqué, sans aucun doute. Mais je me mets à sa place, hein. Même les parents, ça a dû les marquer énormément aussi, hein.
Cette aventure, finalement, de cet enfant à la machine, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette histoire ?
Qu'il y a une musicalité des lieux, qu'il y a une épaisseur des lieux, c'est ce qu'on a appelé l'esprit des lieux. Le genius loci, c'est ça, en fait. C'est cette manière que peut avoir une maison, que peut avoir l'intimité, de raisonner et peut-être même d'entrer en communication avec ses habitants. C'est ça que je trouve assez beau dans cette affaire, l'affaire de la machine, en 1973. Oui, ce serait ça, une forme musicale de hantise.
Merci beaucoup Philippe Baudouin. On vous retrouve en tant que chargé de réalisation donc sur France Culture, mais aussi donc l'édition du Royaume de l'au-delà de Thomas Edison avec une préface qui s'appelle Machine nécrophonique que vous avez écrite aux éditions Jérôme Millon qui était sortie en mars 2015. Et on vous retrouvera surtout donc pour une exposition qui aura lieu à la galerie 24B à Paris qui s'appelle Dessiner l'invisible. Ce sera du 10 octobre au 7 novembre avec des archives qui seront en lien avec la machine en particulier.
C'est bien ça.
Merci Philippe Baudouin d'avoir participé à cette émission très spéciale et surtout d'avoir réalisé l'interview du gendarme Guilbert. À bientôt, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Fin du Cri du Patchwork pour cette année. Une émission qui ne saurait être sans son équipe. J'ai nommé Perrine Mingui, aux commandes du Cri du Patchwork toute cette année, virtuose du montage qui a donné son identité au Cri par sa réalisation toute en dentelle. Flora Sternadel, toujours sur le pied de guerre pour préparer des sons, des invités et des challenges de haute volée. Merci à tous les invités que j'ai reçus à ce micro pour témoigner de leur passion et de leurs questions face à la création. Merci au service de l'INA de nous avoir permis de fouiller dans toutes les émissions du passé pour en faire le terreau de notre musique au présent. Merci enfin à tous les techniciens de Radio France qui ont mixé cette émission immixable. Aujourd'hui, nous avions dans la cabine Bruno Mourlan. Nous nous retrouvons l'année prochaine pour une deuxième saison du Cri du Patchwork, avec toujours autant de sons, de matières et de textures, d'invités et de zooms, pour témoigner de la diversité de notre création contemporaine. Changement de créneau horaire, mais même recette. On passe du goûter au digestif crépusculaire dominical. D'ici septembre, vous pouvez vous refaire la totale en podcastant l'émission, nous envoyer des messages doux ou rudes, des suggestions, des coups de cœur ou surtout des cris. Chers écoutants,
si je fais 1, tagalam, 1, voilà, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 17h, l'heure de passer la main à Arnaud Merlin et son Old That Jazz. Bonjour Arnaud.